J'aimerais parler ce matin sur comment recevoir la parole. Dans Jean chapitre 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. » Dans ce texte, la parole, c'est Christ. Nous savons que Jésus existait avant sa naissance, qu'il était dans le ciel et qu'il est venu sur la terre. On appelle ça l'incarnation. Il a pris la chair incarnée. Donc Dieu s'est fait chair parmi les hommes et il est venu pour nous apporter la lumière, oui, pour donner un sens à notre vie, parce que nous pouvons dire ce matin que sans Dieu, la vie n'a pas de sens. Si on réfléchit un petit peu, les gens mangent, travaillent, vivent, achètent des biens, et finalement, ils le font dans un but purement terrestre. Mais si vous n'avez pas Dieu, ça n'a pas de sens. Et Jésus est venu pour nous révéler qu'il y a un sens à l'existence et qu'après la mort, il y a une éternité dans sa présence. Donc la vie ne s'arrêtera pas sur cette terre. Il est venu aussi apporter la paix du cœur. Mais ce texte dit au verset 12 « à tous ceux qui l'ont reçu ». Ce qui signifie que certains ne l'ont pas encore reçu. Et que la recevoir, ce n'est pas automatique. Ça dépend de chacun de nous. En fait, ça dépend de la liberté de chacun. Mais je note deux verbes importants. C'est le verbe « recevoir » à tous ceux qui l'ont reçu. Et c'est ce que nous vous invitons à faire ce matin. À recevoir la parole dans votre cœur et accepter Jésus comme sauveur. Et le deuxième verbe, c'est « à ceux qui croient en son nom ». Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible même de s'approcher de Dieu, de le rencontrer, si nous n'ouvrons pas nos cœurs avec la foi simple, comme dit Jésus, comme des enfants. Et c'est ces deux actions, recevoir la parole et croire, qui va produire en nous la nouvelle naissance. C'est la suite du verset. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas nous qui naissons de nouveau, mais c'est en acceptant, en accueillant Christ, en croyant de tout notre cœur, alors on a ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, et c'est Christ qui nous permet de vivre la nouvelle naissance. Jésus a raconté une histoire dans Matthieu chapitre 13, verset 4. Si vous avez encore la Bible, vous pouvez aller dans Matthieu chapitre 13, et au verset 4, et on va rester sur ce texte, qui est une histoire de, une parabole en fait, une histoire imagée, qui s'appelle « Le semeur et les terrains ». Matthieu chapitre 13, verset 4. « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Voilà quelque chose de très important, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce matin, je vous invite pas simplement à écouter avec ses oreilles naturelles, mais avec les oreilles du cœur, avec ce que Dieu va placer dans votre cœur, et écouter le Saint-Esprit. Ce récit, en fait, est apporté dans trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Et nous allons faire quelques appels aux différents évangiles pour vous montrer la complémentarité, car les trois évangélistes sont trois témoins de la vie de Jésus et vont la raconter sous trois angles différents. Et donc, on a des détails tout à fait particuliers à chaque évangéliste. Mais le but de ce récit, il est avant tout spirituel. C'est-à-dire que Jésus prend une image très simple de la vie courante, un semeur, la semence, il va dans son champ, et une partie de la semence va tomber d'un côté, l'autre de l'autre. Et on va voir que tout ça va avoir une incidence spirituelle. Alors le premier point, c'est d'abord le long du chemin, vous l'avez au verset 4. Lorsque semeur va envoyer sa semence, une partie va tomber sur un sol dur. Ça ne pénètre pas. Qu'est-ce que c'est le long du chemin ? C'est celui qui entend la parole de Dieu, mais il ne la comprend pas. Pourquoi ? Parce que cette parole ne va pas pénétrer dans son cœur. Et si vous lisez l'évangile de Luc, donc c'est dans Luc chapitre 8 hein, qui reprend la même parabole, Luc précise que cette semence, elle a été foulée aux pieds. Foulée aux pieds. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle a été écrasée avant de pouvoir donner son plein fruit. Eh bien ça, ça me fait penser à toutes ces idéologies athées, tout ce monde matérialiste, l'athéisme, qui dit que Dieu n'existe pas. Et ça piétine ceux qui reçoivent la parole, parce que en même temps, on leur dit « Dieu n'existe pas », ce n'est pas la peine de croire. Il faut savoir que l'Albanie, par exemple, en 1967, s'est proclamé le premier État athée au monde. Et en 1976, ils ont inscrit dans leur constitution qu'ils étaient un État athée. Ça veut dire qu'on ne reconnaît aucun Dieu, que Dieu n'existe pas. Et même en Corée du Nord, aujourd'hui encore, c'est le pays le plus persécuté du monde, eh bien, on force les Coréens à adorer des dirigeants, mais on n'a pas la liberté d'adorer Dieu. On n'a pas la liberté religieuse. Et dans l'enseignement scolaire, depuis la plus tendre enfance, avec ce que l'on entend de la manière dont l'univers est arrivé à l'existence, on vous dit que Dieu n'existe pas, que c'est le hasard. Et ça, les cœurs sont piétinés. Les cœurs sont piétinés par tous ces mauvais enseignements. Et puis les médias, on sait très bien que la télévision, c'est un outil très influent qui va toucher beaucoup le cœur des gens. Et il y a beaucoup d'enseignements qui passent par la télévision et ça piétine le cœur des gens. Et les gens qui veulent croire, on leur dit « mais ça ne sert à rien, Dieu n'existe pas, ce n'est pas la peine ». J'ai avec moi un petit article d'un auteur qui a rédigé, à partir du psaume 23, un texte sur la télévision. Il l'a intitulé « La télé est mon berger ».« La télé est mon berger, je ne voudrais pour rien en manquer. Elle me fait reposer dans un fauteuil confortable. Elle me dirige vers une vie inutile et tranquille. Elle divertit mon âme et me délecte de l'injustice. Quand je suis menacé par les conséquences de mes choix, j'ignore tout mal car tu m'aveugles. Ton écran et tes programmes, voilà tout ce qui m'intéresse. » Tu remplis ma tête d'illusions et mon âme évidée se laisse vivre par tes idées. Oui, le plaisir et la futilité m'accompagneront aussi longtemps que tu existeras. Mais je n'habiterai jamais dans la maison du Seigneur, car tu m'enfermes les portes tous les soirs de ma vie. Voilà, ça appelle à réfléchir sur le temps qu'on consacre à des futilités, voire des émissions, parce que tout n'est pas mauvais à la télévision, bien sûr. Il y a des émissions très bien, mais ça côtoie des émissions qui sont très mauvaises. Et le chrétien qui n'a pas cette maturité spirituelle, il va engranger, absorber tout ce que le monde lui propose. Donc c'est pourquoi je dis souvent, soyez vigilants. Apprenez à maîtriser la télévision avec la télécommande. Par exemple, pendant les pubs, coupez le son. Il nous faut prendre des positions spirituelles, parce qu'il y a beaucoup de messages mauvais qui... Vous savez, par la parole, l'audiovisuel, la parole, l'image, le son, ça rentre dans votre esprit et ça fait du mauvais fruit. Pire, il y en a qui s'endorment devant la télévision. Et même dans votre sommeil, vous absorbez des programmes, et des programmes mauvais. Donc tout cela, nous devons recadrer. Nous sommes chrétiens. Et vous allez voir que si vous prenez position par rapport à la télévision, vous allez découvrir que vous avez plein de temps que vous n'aviez pas avant, que vous perdiez avant. Et ce temps-là, on peut le mettre à profit pour méditer la parole, pour étudier. On a des formations de disciples, on a des outils pour faire grandir, pour permettre de chercher la face de Dieu, pour servir. Donc on se retrouve avec du temps, beaucoup plus que si on le perd à longueur de soirée, de journée, à regarder des futilités. J'entendais un professeur même qui expliquait que, mais dans sa classe, Ses élèves ne lisent pas. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, les élèves ne lisent pas, ils n'aiment pas lire. Et elle a trouvé, c'est un professeur de français, le seul moyen, elle a dit, pour faire lire mes élèves, c'est le livre Harry Potter, le gentil sorcier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est un sorcier, mais c'est de la sorcellerie. Et alors ça marche, elle dit. Ça marche. Les gens, ils lisent, et en fait, ils aiment tellement lire, ils achètent toute la collection. Toute la collection. Mais je ne vous dis pas les centaines et les centaines de pages, et ce n'est pas le message de la parole de Dieu. C'est vraiment une porte ouverte au monde de la sorcellerie. Et tout cela, il nous faut être vigilants. Et les enfants sont façonnés par tout ce qui est de ce monde occulte. D'ailleurs, quand on laisse les enfants devant la télévision, il faut être très prudent aujourd'hui. Car vous mettez votre enfant devant le programme télévision, c'est programme pour enfants. Mais dans ce programme pour enfants, si vous le regardez, vous verrez qu'il y a des choses occultes, qu'il y a des sorciers, qu'il y a des incantations, qu'il y a des maléfices. Enfin, il y a une quantité de choses qui vont rentrer dans le cœur de cet enfant et qui sont mauvaises. Et tout cela fait son fruit. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ? Ça piétine le cœur des enfants. Cette semence, donc, qui est semée le long du terrain, la Bible dit que les oiseaux vont venir et la manger avant qu'elle ne pénètre dans la terre. Elle ne va pas pouvoir se développer. Car les oiseaux, si vous lisez l'interprétation de cette parabole à la suite de Matthieu 13, vous verrez que ces oiseaux, en fait, c'est le diable. C'est le diable et les démons qui viennent enlever la bonne semence, la sainte parole de Dieu. L'évangile de Marc précise, aussitôt, Satan vient et enlève la parole semée en eux. Et j'ai souligné le mot aussitôt. Aussitôt, le diable réagit, car lorsque la parole est semée, il sait qu'il a peu de temps, car si cette parole va trouver un cœur sincère, elle va produire du fruit. Et lui, il vient pour enlever la parole. Donc nous sommes dans un combat spirituel entre deux forces. Il y a le Saint-Esprit qui veut convaincre de péché, amener à la repentance, vous faire réaliser que vous êtes perdu, séparé de Dieu. Et puis, il y a le diable qui dit « n'écoute pas » ou « remets à demain » ou « pourquoi est-ce que tu croirais ce prédicateur ?» ou « pourquoi est-ce que tu croirais ce vieux livre, cette Bible ?» Alors ça, c'est l'ennemi, il veut enlever la parole. Et quand vous voulez lire la Bible, vous avez pris cette bonne décision et vous vous dites « tiens, j'ai du temps là, je vais lire ma Bible. » Eh bien, il va y avoir quelqu'un qui va téléphoner, vous allez avoir un imprévu, vous allez avoir des empêchements. Pourquoi ? Parce qu'aussitôt que l'ennemi voit un chrétien qui veut recevoir la parole, ou quelqu'un qui lit la Bible, aussitôt, lui, il réagit et il veut empêcher, il envoie ses oiseaux pour empêcher que cette semence ne trouve un cœur pur. Alors pour lui, c'est un danger. J'ai noté ce verset dans 1 Timothée chapitre 4 et au verset 6, c'est Paul qui dit à Timothée, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre, c'est-à-dire un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Voilà ce que nous devons être, nourris des paroles de la foi. Et si nous sommes nourris des paroles de la foi, nous serons forts spirituellement parce que c'est une nourriture de l'âme. Mais c'est ça que l'ennemi ne veut pas, que nous soyons nourris des paroles de la foi. C'est pour ça qu'il est pressé. Alors je lis maintenant dans l'évangile de Luc. « Le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. » Il apporte une autre précision. C'est que le diable, il a peur d'une seule chose, c'est que ces gens, en recevant la parole, ils commencent à croire et que cela produise du fruit dans leur vie et qu'ils ne deviennent des enfants de Dieu. Et ils vont être sauvés. Car Satan sait très bien que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pour croire, il faut ouvrir son cœur et recevoir la parole. Comme on l'a dit au tout début, il faut recevoir Christ et croire en son nom. Et donc, ce matin, j'aimerais rappeler que l'on n'est pas sauvé par la religion, on n'est pas sauvé par le baptême non plus. J'ai rencontré plusieurs personnes qui, du fait qu'ils étaient baptisés, ils étaient convaincus qu'ils appartenaient à Christ. Non, ce n'est pas le baptême qui vous sauve. Ce n'est pas le baptême qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est de recevoir Christ et de croire en son nom. Ça, c'est la foi. Le baptême, c'est maintenant une question d'engagement et d'obéissance à la parole de Dieu. C'est bien sûr nécessaire de se faire baptiser. Il ne faut pas occulter la valeur du baptême. Elle est très importante, mais c'est une décision d'obéissance à la parole. Ce n'est pas le baptême qui vous sauve. Ce ne sont pas vos parents, même s'ils vous ont élevé dans la foi chrétienne. J'entends souvent dans les discussions, « Oui, mais moi je suis né dans une famille très chrétienne, mon père il allait à l'église tous les dimanches. » Mais ce n'est pas pour ça que vous, vous êtes sauvé ou que vous êtes chrétien. Ça, c'est sa vie, c'est son choix. Mais vous avez votre part à faire. Et maintenant, quel est votre choix? Donc, vous êtes sauvés par le moyen de la foi, par le sang de Christ, votre Sauveur, qui l'a versé à la croix. Maintenant, vous, votre part, c'est d'accepter Jésus et de croire en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Car nous connaissons l'efficacité du sang de Jésus. Quand Jésus a versé son sang, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. » Il a remis sa vie à Dieu, mais son sang, il est encore efficace aujourd'hui, c'est le sang de Christ. Et ce sang-là, le diable le redoute plus que toute chose, car il sait que si vous croyez dans le sacrifice de Jésus, vous serez sauvés, vous aurez une nouvelle vie, et ça, le diable redoute plus que tout. Premier terrain, sol dur, les oiseaux viennent, enlèvent la semence avant qu'elle ne produise du fruit. Deuxième terrain, ça va un petit peu plus loin. On voit que dans le premier terrain, il n'y a aucun fruit. Dans le deuxième, c'est les endroits pierreux. Il y a un peu de terre, mais beaucoup de pierres. Jésus explique que les pierres, ce sont les fardeaux de la vie, les fardeaux pesants, comme des pierres bien lourdes. Et au début, cet homme entend, dit Jésus, il entend la parole avec un cœur réceptif. Le texte dit qu'il reçoit aussitôt, avec joie, la semence. Donc la parole va quand même rentrer dans son cœur. Le problème, si on lit le texte, c'est qu'il n'y a pas de racine. C'est au verset 5. Il n'y avait pas beaucoup de terre et elle ne trouva pas un sol profond. Et il n'y avait pas de racines qui ont pu se développer. Pas de racines. Donc les racines, pour une plante, c'est vital. C'est par les racines que la plante va trouver sa subsistance, elle va se nourrir, elle va boire, elle va pouvoir s'épanouir parce qu'elle va développer des racines. Elle va trouver une stabilité avec les racines. Mais si la plante n'a pas le temps de développer des racines, ou elle a des toutes petites racines, alors au moindre coup de vent, à la moindre tempête, elle s'effondre. Ça fait référence à tous ces gens qui ont été touchés superficiellement par la parole de Dieu, mais qui n'ont pas de relation profonde. Peut-être ils ont accepté Jésus, ils ont pleuré ce jour-là, mais c'est la surface de leur vie qui a été touchée. Jésus n'est pas rentré dans leur cœur. Ils ont pleuré comme ils auraient pleuré devant un film, par exemple, triste, un film où on voit quelqu'un qui meurt, un film où on voit quelqu'un qui fait quelque chose d'extraordinaire, et voilà, on est touché. Mais ça, c'est la surface émotionnelle. Et ce que Christ veut, c'est régner sur notre cœur, c'est-à-dire des racines profondes. Et la parole de Dieu, si elle ne descend pas au fond du cœur, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une conversion superficielle. Et ce terrain-là, c'est quoi? Ben, c'est ceux qui sont touchés superficiellement. Double conséquence pour eux. Jésus dit, ils ne croient que pour un temps. Oui, ils croient. Mais si vous croyez juste un mois, deux mois, six mois, bien votre relation avec Christ n'est pas développée. Alors, où en est notre foi ce matin? Est-ce que notre foi est superficielle? Est-ce que nous avons juste été touchés dans nos émotions? C'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut aller plus profondément et que Jésus règne sur nos cœurs. Parce que si notre foi est juste superficielle, Paul dit que certains ont fait même naufrage par rapport à la foi parce que leur foi n'était pas fondée en Christ. Ils ont lâché. Ils ont lâché. Jésus dit qu'ils ne croient que pour un temps. Et puis l'autre conséquence, c'est qu'ils chutent quand vient l'épreuve. Jésus dit, dès que vient la tribulation, c'est-à-dire la pression, l'oppression, si vous acceptez Christ, vous aurez de la pression. C'est-à-dire, votre conjoint vous dira, soit tu suis ton église, soit tu me quittes. Il y aura de la pression dans la famille. Parfois, il y aura des pressions dans le travail. Il y aura des pressions dans votre groupe par vos collègues qui ne voudront pas de Christ. Alors Jésus dit ceci dans Jean 16, 33. Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des bénédictions dans le monde. » Comme ça? Eh oui, on aura des tribulations, frères et sœurs. On aspire tellement aux bénédictions. Mais dans le monde, vous aurez des tribulations. En Dieu, vous avez des bénédictions. Mais dans ce monde, il y a de l'opposition. Il y a des tribulations. Mais Jésus ne dit pas, « Bon, vous aurez des tribulations, vous allez voir, ça va être dur, vous n'allez pas vous en sortir. » Et j'aimerais pas être à votre place. Non ? Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire que Jésus nous demande de nous armer de persévérance, de courage et de foi. Et lui, il dit, mais moi, j'ai remporté la victoire déjà. Et nous sommes dans cette victoire, frères et sœurs. Et nous ne sommes pas défaitistes, mais nous sommes dans la foi. Ce mot « tribulation » vient d'un mot qui signifie « battre ». Battre avec le tribulum, qui est une herse pour battre le grain. Nous sommes donc battus par l'opposition. Nous sommes persécutés à cause de l'Évangile. Et entre guillemets, notre persécution n'est pas trop violente dans ce monde. C'est souvent une persécution morale. On n'est pas encore enfermé, on n'est pas encore arrêté. On n'est pas encore obligé de mettre nos Bibles, de se cacher pour lire notre Bible. On a la liberté. On n'est pas dans un pays de persécution comme la Corée du Nord que je citais tout à l'heure. Eux, ils n'ont pas ce droit. Mais on ne sait pas comment les choses vont tourner dans l'avenir. C'est pourquoi il faut être toujours prêt, connaître la parole dans notre cœur. Et puis, la tentation qui survient, dit l'évangile de Luc, « Car le diable aussi vous fera tout pour vous faire abandonner le Seigneur. » Il mettra dans votre esprit ce doute. Arrête de prier. Pourquoi tu pries encore pour ton mari? Il ne se convertira jamais. Tu seras toujours seul. Tes amis t'ont abandonné. Toi, tu continues à être chrétien, ça ne sert à rien. Il vous mettra des doutes dans votre esprit. Et c'est pour ça que certains arrivent jusqu'au terrain avec les pierres. Mais les fardeaux, les tentations sont tellement fortes pour eux qu'ils ne s'en sortent pas et qu'ils se laissent condamner. Et certains vivent dans l'illusion aussi que la vie chrétienne, c'est facile. Non, la vie chrétienne, c'est un combat, c'est difficile. Il y a des luttes. Mais ce que Jésus a dit, c'est qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il y aura des combats, il y aura des positions à prendre qui ne seront pas faciles, dans la famille, au travail. Et ça, ça nous parle de l'engagement. Ils n'ont pas tenu. Deuxième terrain, donc, ils ont abandonné avant la fin. Troisième terrain, ce sont les épines. C'est un terrain qui va encore un petit peu plus loin que le précédent. Car là, maintenant, il y a assez de terre pour que les racines se développent et la plante va grandir. Mais en même temps que la plante grandit, des épines vont grandir et vont endommager la plante. Et c'est un autre élément. Les épines qui représentent les soucis de Jésus, ce sont les soucis du siècle présent. Et les chrétiens, alors, qui se laissent gagner par ces soucis, eh bien, ça étouffe la parole en eux. La séduction des richesses. Marc ajoute l'invasion des convoitises. Luc précise les plaisirs de la vie. Voilà les épines. Ce sont toutes ces choses qui nous empêchent de nous épanouir dans la vie chrétienne. Oui, en troisième terrain, ils ont des racines. Ils ont commencé à grandir. Ils ont commencé à se développer. Mais les épines, c'est comme si ça les tient à la gorge. Ils veulent faire des choses pour Dieu. Ils veulent servir, mais ils sont limités. Ils sont comme tenus à la gorge. Ils veulent ouvrir la bouche. Pour prier, ils veulent faire des choses pour Dieu, mais ils sont retenus par les épines. En résumé, ce sont le monde et ses séductions trompeuses. Car si le diable n'arrive pas par la persécution, les fardeaux avec les pierres, il essaye par les épines et les séductions. Le monde ne vous encouragera jamais à suivre le Seigneur. Il y a une seule solution. Galates chapitre 6, verset 14, c'est Paul qui le dit. C'est que ce monde doit être crucifié à nos yeux. En ce qui me concerne, dit Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Voilà la clé pour une vie victorieuse dans ce monde. Car Jésus a dit, vous n'êtes plus du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes plus du monde. Comment est-ce qu'on n'est plus du monde? Bien, moi je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. C'est une telle position spirituelle que l'on peut prendre la victoire sur les tentations, les séductions de ce que Jésus appelle les séductions des richesses, l'invasion des convoitises, les plaisirs de la vie. Je suis crucifié pour le monde. J'ai renoncé à ces choses-là. Pierre dit, abstenez-vous de tout ce qui fait la guerre à votre âme. C'est un choix radical. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas la facilité, la vie chrétienne. Mais si vous voulez porter du fruit, c'est le chemin. C'est la voie de la consécration. C'est la voie de tout donner pour le Seigneur et de dire, voilà, ce monde et ses plaisirs, ça c'est notre mode de pensée. Moi, je veux vivre selon la parole de Dieu. Si on ne fait pas ça, on sera fatalement dans les épines et notre vie chrétienne sera en dents de scie, voire on arrivera peut-être à servir un petit peu, mais ça sera un fardeau pesant. on ne verra pas des fruits, on abandonnera parce qu'on dira ben, « le Seigneur n'agit pas, le Seigneur ne parle pas ou le Seigneur n'a pas répondu à mes prières ». Ces épines vont étouffer votre foi. Ces épines vont faire que votre vie chrétienne va devenir chétive, ne va porter aucun fruit et que votre vie chrétienne soit une vie de misère malheureuse. Voilà. Alors ça, le diable fait tout pour anéantir tout le bénéfice de la parole de Dieu par ses épines. Et la personne, Luc dit que la personne ne portera aucun fruit allant jusqu'à maturité. Elle sera toujours entravée dans son avancée spirituelle. Vous voudrez servir, mais vous ne verrez pas les fruits. Et ça deviendra pesant, voire vous deviendrez amer parce que vous direz ben, « Dieu n'a pas agi ». Et le dernier terrain, c'est la bonne terre, au verset 8 de la parabole. La bonne terre, maintenant, c'est ceux qui entendent la parole, la comprennent. Et là, pour la comprendre, il nous faut la grâce de Dieu. Parce que pour entendre, il nous faut ouvrir notre cœur comme un enfant. Jésus dit « Si vous ne devenez comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». Ce n'est pas avec nos capacités, notre intelligence, mais c'est avec une foi simple comme celle des enfants. Et il dit, pour la comprendre, vous devez la comprendre, non pas simplement avec votre intelligence, votre tête, oui, vous avez besoin de l'intelligence, on en a besoin pour lire, pour saisir, mais il faut que ça aille plus loin, parce que ça reste encore la superficialité, ça reste le terrestre, l'humain. Et cette intelligence, elle doit être touchée par la grâce de Dieu afin de comprendre ce qui est spirituel. Voyez, une révélation, c'est tellement au-delà de notre compréhension que Paul dit que c'est une folie. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, l'évangile, pour la personne qui n'est pas chrétienne, c'est une folie. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, quand il est parlé de sagesse, c'est cette intelligence que nous avons, qui nous permet la réflexion, qui nous permet de faire la philosophie, de chercher... pourquoi le monde, quelle est notre place, à quoi ça sert, etc. Ce sont des réflexions humaines, c'est la sagesse des hommes. Mais avec cette sagesse, il n'a point connu Dieu. Dieu, ce n'est pas par les moyens humains, non. Il a plu dans sa sagesse à Dieu, donc maintenant on parle de la sagesse de Dieu qui est surnaturelle, qui est pure, qui est divine. Il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est une folie. Donc, n'essayez pas, si vous voulez, trouver Dieu avec la sagesse de ce monde. Ce n'est pas le bon outil, ce n'est pas le bon moyen. Mais la folie de la prédication, qui est contraire à la sagesse de ce monde, c'est de recevoir le message de la croix, c'est d'accepter que Christ est mort pour effacer nos péchés, qu'il l'a fait, lui qui était pur sans péché, pour nous pécheurs. Et c'est cette révélation, au fond, avec l'aide du Saint-Esprit, qui nous fait comprendre que nous sommes perdus, que nous avons besoin du Seigneur Jésus. Luc précise dans son évangile, donc c'est dans Luc chapitre 8, vous avez Matthieu 4, Luc 8 et Matthieu 13 qui prennent tous les trois cette parabole. Luc lui dit, ils retiennent la parole de Dieu dans un cœur honnête et bon. Car notre cœur doit être labouré, il doit être travaillé par la parole de Dieu. Il doit être honnête et bon, c'est-à-dire brisé par l'œuvre du Saint-Esprit. Notre cœur est orgueilleux, il est dur, il est résistant, réfractaire aux choses de Dieu. Mais si nous laissons le Saint-Esprit toucher nos cœurs, alors il va être labouré. Et cette parole tombe dans une bonne terre maintenant, puisque ce cœur a été transformé par l'action de Dieu. Alors, les conséquences pour cette personne sont bénies. Premièrement, cette personne qui a accepté la parole, elle va tomber dans une bonne terre. La Bible dit qu'elle va porter du fruit avec abondance, jusqu'à 100 grains. Il dit un va porter 30, un va porter 60 et un va porter 100 grains. Alors, l'important, ce n'est pas tellement la quantité de fruits que l'on va développer, mais c'est de porter du fruit. Ça rejoint la parabole des talents où l'un va développer plus de talent que l'autre. Mais celui qui ne développe pas de talent, en tout cas, il n'est pas accueilli dans le royaume de Dieu parce qu'il n'a pas fait sa part, son travail. Mais en tout cas, pour chaque grain, il va y avoir du fruit. Même si c'est 30, gloire à Dieu. Si c'est 60, merci Seigneur. Si c'est 100, alléluia. Mais peu importe, j'allais dire, après les fruits, ça c'est Dieu qui permettra une croissance plus ou moins abondante. En tout cas, il faut qu'il y ait du fruit, c'est la conséquence de la bonne terre. Et Luc précise qu'ils vont porter du fruit avec persévérance. Non pas seulement qu'ils vont commencer à servir, ils ne vont pas simplement commencer une activité, mais ils vont aller toujours de progrès en progrès. C'est Paul qui dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Il y a des progrès, il y a des avancées. Quand on a laissé la parole tomber dans une bonne terre, elle va nourrir notre cœur et nous allons servir de progrès en progrès. Matthieu chapitre 10, verset 32 dit ceci. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi ou me confessera, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà les quelques éléments que je voulais vous laisser. Parce qu'il est question de se déclarer pour Christ. Et si on se déclare pour Christ, eh bien Dieu se déclare pour nous aussi. Mais si on renie Christ, si on est négligent, on sera fatalement dans un de ces trois premiers terrains. Soit même qu'on est arrivé jusqu'au terrain des épines, mais en tout cas, on n'est pas encore dans le bon terrain. Et pour arriver dans le bon terrain, il faut que ce cœur soit touché par la grâce de Dieu, par la parole. La parole est semée, parce que la parole, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Et si aujourd'hui, vous la recevez dans votre cœur, vous pouvez avoir un nouveau départ, changer de vie, être pardonné de vos péchés. Mais je vous pose la question, quel est l'état de votre cœur? Quel est votre terrain? Est-ce que ce terrain a été piétiné et la parole ne pénètre pas? Et vous venez, vous sortez comme vous êtes entré, parce que la parole ne peut pas produire son fruit, votre cœur n'est pas labouré, transformé, votre cœur est piétiné. Est-ce que votre cœur est superficiel avec ses pierres? Est-ce que vous avez reçu l'évangile juste pour être touché dans vos émotions, mais vous n'avez pas accepté Christ comme sauveur? Est-ce que vous êtes rempli de soucis, de difficultés qui étouffent la parole à chaque fois que vous voulez faire des choses? L'ennemi vous souffle que ce n'est pas possible, que c'est des soucis qui viennent dans votre esprit à chaque fois que vous voulez écouter la parole? Ou bien est-ce que votre cœur, c'est comme cette bonne terre qui va recevoir la parole? Alors j'aimerais prier quelques instants, parce qu'aujourd'hui, je dirais, la parole de Dieu est toute puissante. Le message que nous annonçons, ce n'est pas le nôtre. Nous faisons fonction d'ambassadeurs, nous sommes des témoins de Christ. Nous portons une bonne nouvelle. Ça, c'est notre part. Nous annonçons Christ, crucifié et ressuscité. Du côté de Dieu, tout est accompli. Jésus est mort à la croix. Dieu a envoyé son Fils. Il a donné sa vie pour vos péchés, pour que vous soyez pardonnés, pour vous donner la nouvelle vie, la nouvelle naissance. Mais il reste une chose à faire. C'est ce que nous avons dit en tout début de ce message. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Christ, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est possible ce matin. Quiconque ouvre son cœur, simplement. Et je vous invite à prier, car c'est peut-être l'occasion de donner vraiment votre cœur au Seigneur aujourd'hui, de demander pardon pour vos péchés et de prendre un nouveau départ. Merci pour ta parole. Nous avons confiance que tu règnes, Seigneur, sur ce lieu, cet instant maintenant. Et je te bénis, Seigneur, pour cette parole qui est toujours aussi efficace. Et je te prie qu'elle trouve des terrains réceptifs maintenant et que tu viennes, par l'assistance du Saint-Esprit, convaincre de péché, montrer la réalité de la perdition, montrer que sans toi, il n'y a pas d'issue, que dans ce monde, il n'y a rien, que c'est vide, c'est creux, mais que par ta grâce, tu peux tout changer. Tu peux apporter un nouveau départ, tu peux apporter une nouvelle vie, une vie pure, tu peux pardonner les péchés, tu peux restaurer. Seigneur, maintenant, fais ton œuvre dans le nom de Jésus.